La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour, je m'appelle Gaël Cozandet, je suis pasteur de l'Église adventiste. À l'heure où cette émission est diffusée, nous sommes le 26 décembre. Selon la tradition, hier, nous nous sommes rappelés de la naissance de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je vous propose d'explorer ce que l'évangéliste Matthieu raconte immédiatement après cette naissance. C'est le fameux épisode des rois mages. Alors c'est une histoire célèbre, hein, je la connais depuis que je suis enfant. J'ai en tête ces images d'hommes barbus, beaux et colorés d'habits somptueux, agenouillés devant l'enfant Jésus et tenant de magnifiques cadeaux dans leurs mains. Mais voilà comment l'évangéliste Matthieu nous raconte cette histoire au chapitre 2, les versets 1 à 12. Je lis. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, au moment où Hérode le Grand était roi. Alors, des mages vinrent de l'Est et arrivèrent à Jérusalem. Ils demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé. Et tous les habitants de Jérusalem aussi. Le roi réunit tous les chefs des prêtres de son peuple avec les maîtres de la loi. Il leur demanda, « À quel endroit est-ce que le Messie doit naître ?» Ils lui répondirent, « Le Messie doit naître à Bethléem, en Judée. » En effet, le prophète a écrit, « Et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n'es sûrement pas la moins importante des villes de Juda ? Oui, un chef va venir de chez toi. Il sera le berger de son peuple, Israël. » Alors Hérode fit appeler les sages en secret. Il leur demanda « À quel moment est-ce que l'étoile est apparue ?» Ensuite, il les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner exactement sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me prévenir, et moi aussi j'irai l'adorer. » Après ces paroles du roi, les mages se mirent en route. Ils aperçurent l'étoile qu'ils avaient vue à l'est. Ils furent remplis d'une très grande joie en la voyant. L'étoile avançait devant eux. Elle arriva au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouvait, et elle s'arrêta là. Les mages entrèrent dans la maison, et ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se mirent à genoux et adorèrent l'enfant. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après cela, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode. Alors, ils prirent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Voilà donc comment Matthieu raconte l'histoire de ces fameux rois mages. Alors, pourquoi Matthieu a-t-il tenu à raconter cette histoire ? Et qu'est-ce qu'elle peut nous dire aujourd'hui ? Quand je prends un peu de recul et que je réfléchis à l'année qui vient de s'écouler, je dois admettre qu'elle a été difficile, une de plus. Et la question naturelle qui peut venir à ce moment, c'est « Où est Dieu en ce moment ? » Dans ce monde malade, où est Dieu ? Eh bien, en fait, c'est tout l'enjeu de cette histoire que nous explorons aujourd'hui. Matthieu nous pose la question. Si Jésus était là, devant nos yeux, est-ce qu'on le reconnaîtrait dans ce petit enfant ? Et si Dieu se rencontrait dans des lieux ou des personnes inattendues ? Et si nous avions besoin d'apprendre à le reconnaître ? Alors, avant d'explorer quelques réponses que nous propose Matthieu, voyons quelques détails de cette histoire. Tout d'abord, Matthieu est le seul à rapporter cet épisode de la vie de Jésus. Marc et Jean ne donnent pratiquement aucun détail de cette naissance. Et Luc a plutôt rapporté l'histoire de la visite de bergers. Mais ce qui frappe dans les deux histoires, c'est que les premiers visiteurs sont des personnages inattendus, d'humbles gardiens de moutons et, ici, des mages païens. Pas le genre de personnes qu'on aurait attendues en premier. Et puis, il y a le lieu, Bethléem. Là aussi, c'est un endroit inattendu. Ce n'est pas la capitale, Jérusalem, la ville bien-aimée de Dieu. Alors, c'est pas loin, hein, une dizaine de kilomètres de là, mais c'est juste un petit patelin, rien de bien excitant. Quoique, on a le souvenir que c'est là où Ruth, l'étrangère moabite, a rencontré le vertueux juif Boaz, et c'est aussi là qu'elle est devenue la grand-mère du célèbre roi David. Et dans son premier chapitre, Matthieu a bien montré que David était l'illustre ancêtre de Jésus. C'est un indice important. Maintenant, voyons les personnages de cette histoire. Commençons par ces mystérieux mages. Alors, Matthieu ne donne pas beaucoup de détails. Et d'abord, rien ne dit que ce sont des rois, et rien non plus qu'ils sont trois. On repassera pour l'image d'Épinal. En fait, c'est seulement au IIIe siècle qu'un certain Tertullien va en parler comme des rois. et peut-être qu'on a pensé qu'ils étaient trois à cause des trois cadeaux qu'ils ont offerts à Jésus. Et c'est au VIe siècle qu'ils vont recevoir les fameux noms de Melchior, Gaspard et Balthazar. Alors certaines traditions en font même les descendants des trois fils de Noé, Sem, Cam et Japhet. Mais Matthieu ne dit rien de tout cela. Le mot « mage » utilisé dans le texte est le même que l'on rencontre dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament, à propos de mages mèdes à la cour de Babylone, qui avaient l'habitude d'interpréter les rêves. Et comme le texte dit qu'ils viennent de l'Est, c'est un indice de plus qui pointe vers des astrologues babyloniens. On peut se demander comment ces étrangers lointains ont entendu parler du Messie et des prophéties sur sa venue. Et donc, on pense qu'ils auraient pu être en contact avec l'importante diaspora juive qui n'était pas revenue de l'exil à Babylone. Le livre de Daniel montre qu'il y avait eu des contacts de haut niveau à la cour entre les Babyloniens et les Juifs. Ces mages ont dû s'intéresser à la religion du Dieu d'Israël jusqu'à être prêts à entreprendre un long voyage à la suite d'un signe. Et ce n'était pas juste de la curiosité intellectuelle. En fait, c'est peut-être une première réponse de Matthieu à notre question « Comment trouver Dieu ?» Le cheminement de ces mages peut représenter aussi un chemin de conversion possible. La première étape, c'est la soif et l'ouverture à des indices. On est en recherche et on entend parler de Dieu à travers des voisins ou des collègues, comme ces mages avec leurs collègues juifs. On perçoit peut-être des signes. C'est Dieu qui nous rejoint dans notre culture, dans ce qui peut nous parler comme à ces mages habitués à regarder les étoiles. La deuxième étape, c'est l'expérimentation. Ces mages vont parcourir une très longue distance sur l'impulsion de ces intuitions. C'est quitter nos habitudes pour partir en voyage vers l'inconnu dans la recherche de Dieu. La troisième étape, c'est la persévérance. Les mages ne vont pas trouver tout de suite. Une fois arrivés en Israël, ils enquêtent, ils questionnent, ils continuent à chercher. De la même manière, nous cherchons Dieu, mais il n'est pas toujours apparent. Et il ne faut pas se décourager, il faut continuer à écouter ces intuitions profondes et les laisser nous porter. La dernière étape, c'est celle de la rencontre, comme ces mages qui voient finalement Jésus. Alors pour les uns, c'est un moment fulgurant, ils peuvent parler d'un avant et d'un après. Pour d'autres, c'est un dévoilement progressif, une découverte longue mais fertile. Et comme pour les mages, la rencontre avec Dieu génère de la joie et de l'adoration. Voilà peut-être le chemin de conversion que Matthieu nous montre à travers ces mages. Mais dans l'histoire, ce ne sont pas les seuls personnages. Il y a aussi le roi Hérode. Alors Matthieu précise dès le premier verset que cela se passe à son époque, à l'époque du règne de ce roi. Et c'est directement à lui que s'adressent les mages à leur arrivée à Jérusalem. On imagine qu'on n'obtient pas une audience avec le roi comme ça, donc c'est une indication de plus qui montre le rang élevé de ces mages. En entendant la nouvelle de la naissance d'un roi des Juifs, il nous est dit qu'Hérode fut troublé. Et on peut le comprendre si l'on se penche un peu sur son histoire. Aujourd'hui, il est connu sous le nom d'Hérode le Grand. On sait qu'il est né en 73 avant notre ère et qu'il avait du sang édomite et arabe. Les Édomites, c'est le peuple auquel a donné naissance Ésaü, le frère de Jacob. Ils ont été des ennemis réguliers d'Israël. Hérode a sûrement été élevé comme un Juif. Il a été nommé roi de Judée par les Romains en moins 40 et il s'est révélé un excellent administrateur et un stratège politique capable de rester dans les grâces des empereurs romains qui se sont succédés. C'est un roi qui est resté célèbre pour ses projets de construction notamment et on pense au temple de Jérusalem dont il a fait un superbe édifice et dont le souvenir est resté très prégnant chez les Juifs. Mais c'était aussi un homme de pouvoir qui infligeait de lourdes taxes au peuple et il en voulait aux Juifs d'être considéré comme un usurpateur. Et cette attitude, ce sentiment va empirer avec le temps. À l'époque de la naissance de Jésus, c'est devenu un vieil homme paranoïaque qui craint par-dessus tout d'être renversé du trône. Il va ainsi faire tuer sa femme et deux de ses fils parce qu'il pensait qu'ils avaient des prétentions au trône. Ce que raconte Matthieu est donc tout à fait en ligne avec ce que l'on connaît des dernières années d'Hérode. On comprend donc pourquoi Hérode pouvait être préoccupé. Là où son pouvoir était imposé par la force de Rome, il pouvait se retrouver face à un descendant légitime du trône. Membre de la tribu de Juda, descendant direct de la lignée du roi David, cet enfant pouvait vite être reconnu par le peuple et même par des pays étrangers à travers la reconnaissance de ses mages. Et puis Hérode est intelligent. Il connaît la religion juive. Lorsqu'il se renseigne au verset 4, là où les mages avaient parlé d'un roi des Juifs, Hérode utilise le mot « Christ ». C'est le mot grec pour parler du Messie, le libérateur d'Israël que tant de professions ont annoncé. Voilà où est le risque. Hérode se met tout de suite en tête de tuer ce rival potentiel. Il fait appel à deux groupes de personnes qui ne sont sûrement pas venus ensemble parce que c'était des gens qui ne s'entendaient, mais alors pas du tout. D'un côté, il y avait les prêtres, c'était les responsables du service du temple. De l'autre, il y avait les maîtres de la loi, c'était les experts des Écritures, les théologiens. Et comme dans les Écritures, il y avait le Code civil d'Israël, en fait, on pourrait dire qu'ils étaient aussi les avocats. Alors Hérode demande où devait naître le Messie. Et même s'ils ne s'entendent pas tout de suite, les deux groupes d'experts donnent la même réponse, claire et précise. Ils citent donc le prophète Michée, chapitre 5, verset 2, qui annonce la naissance du Messie à Bethléem. Voilà d'où viendrait le libérateur d'Israël. De manière étonnante, le rôle de ces experts s'arrête là. On ne les mentionne plus dans l'histoire, ils brillent par leur absence et on reviendra là-dessus. Hérode demande au mage la date de l'apparition de l'étoile et c'est sur ses indications qu'il va par la suite déclencher le massacre des enfants de moins de 2 ans auxquels Jésus va échapper de justesse. C'est ce que Matthieu raconte juste après l'épisode des mages. Mais avant cela, Hérode espérait viser plus précisément et il transforme les mages en espions involontaires. Il dit qu'il veut aussi adorer le nouveau roi. Il se fait passer pour un croyant exemplaire. Et ça, eh ben c'est typique de tous les pouvoirs qui ont utilisé la religion pour leur projet politique. Matthieu raconte qu'après avoir entendu l'interprétation des spécialistes des Écritures, les mages sont allés donc à Bethléem. Et l'étoile qui les avait guidés depuis le début s'est arrêtée juste au-dessus de là où était Jésus. Que peut bien signifier cette étoile qui joue au GPS? Par le passé, plusieurs ont essayé de la faire coïncider avec des phénomènes astronomiques. Ainsi, le célèbre astronome Kepler, mort en 1630, a tenté de l'expliquer par une conjonction des planètes Jupiter et Saturne qui a eu lieu en l'an -7 avant notre ère. Mais il a dû admettre que cette conjonction n'était pas parfaite, alors il a aussi pensé à une supernova, là où d'autres ont pensé à une comète, bref. C'est peut-être passé à côté de l'intention de Matthieu que de tenter d'y trouver une explication astronomique. Avec une étoile qui se déplace, puis qui s'arrête au-dessus d'une maison, on est plutôt de l'ordre du miracle. Alors c'est peut-être un ange, souvent assimilé à des étoiles dans la Bible. On retrouve d'ailleurs une apparition d'ange dans le passage parallèle de Luc, avec les bergers dans les champs. Mais ça va peut-être plus loin que ça. Longtemps auparavant, lorsqu'Israël n'était qu'un peuple d'anciens esclaves migrant vers la terre promise, les récits de l'Exode évoquent une colonne de feu qui guidait le peuple. Elle se déplaçait et s'arrêtait pour indiquer où le peuple devait s'arrêter. On trouve ça, par exemple, dans Exode chapitre 31, le verset 21. Et en fait, c'était Dieu qui conduisait son peuple. Et pendant leur voyage, un prophète païen appelé Balaam a prononcé une phrase qui prend ici tout son sens. On trouve ça dans Deutéronome chapitre 24, le verset 17. Je lis. « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. » Un sceptre s'élève d'Israël. Voilà peut-être ce qui a conduit les mages à voir dans cette étoile le signe de la venue du roi des Juifs. Nous aussi, dans notre cheminement de foi, nous pouvons parfois percevoir des signes, des coïncidences troublantes, des éléments fortuits qui semblent vouloir nous dire quelque chose. D'ailleurs, quelqu'un a dit avec humour qu'il observait davantage de coïncidences quand il priait. Et c'est le rapprochement entre ces signes ces coïncidences et l'éclairage des Écritures qui permet de nous encourager dans notre voyage spirituel. Alors pour les mages, ça y est, ils sont arrivés au bout de leur quête. Les mages auraient pu être déçus de ne pas trouver cet enfant chez des nobles dans un palais, mais leur joie montre que ce n'est pas ça qui importait. Peut-être que leur joie est proportionnée à la longueur de la route, des questionnements, des doutes qu'ils ont dû ressentir. Enfin, ils ont trouvé Jésus. Ils tombent sur leurs genoux et se prosternent devant lui, comme devant un roi. Ces grands mages, personnages importants et habitués des cours royales, voilà qu'ils reconnaissent comme leur roi ce petit enfant juif qu'ils rencontrent dans une humble maison d'une petite bourgade d'un pays lointain. Et comme il est d'usage, lorsqu'on rencontre un roi, on vient avec des cadeaux précieux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors je me suis demandé si chacun de ces cadeaux avait une signification symbolique. Il semble que les pères de l'Église voyaient dans l'or le symbole de la royauté. Dans le Nouveau Testament, l'or représente aussi la pureté de la foi, raffinée par les épreuves surmontées. Concernant l'encens, les pères y voyaient la divinité, puisque c'était le parfum par excellence des rites dans le temple. Dans l'Apocalypse, l'encens représente la prière des croyants qui monte vers Dieu. Et pour la myrrhe, c'était un symbole de joie et de fête dans l'Ancien Testament, là où le Nouveau Testament y verra plutôt un symbole de la mort de Jésus. Tous ces symboles peuvent avoir du sens concernant les mages, mais là aussi on peut spéculer longtemps sur la signification de chaque élément, là où l'objectif est peut-être ailleurs. Car enfin, pourquoi raconter cette histoire d'étrangers qui viennent voir Jésus ? Quel est son message ? En fait, ce Jésus laisse beaucoup de gens perplexes. Là où l'on attendait un roi puissant et guerrier, voici un humble fils de charpentier d'une obscure bourgade d'Israël. Alors tout au long de son évangile, Matthieu va donner des preuves pour aller au-delà des apparences. Au premier chapitre, il a déroulé les preuves généalogiques de la royauté de Jésus. Oui, il est bien descendant de la lignée de David et légitime prétendant au trône. Et puis, il y a les prophéties messianiques. Et Matthieu montre qu'elles sont en train de se réaliser. Jésus naît bien à Bethléem, l'étoile rappelle bien la prophétie de Balaam et la colonne de feu, et maintenant des mages étrangers viennent adorer Jésus en lui offrant des cadeaux. Eh bien, voici ce que le prophète Ésaïe annonce au chapitre 60. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras. Quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de madians et d'épha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens, et publieront les louanges de l'Éternel. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. » Voilà comment Ésaïe décrit la venue du Messie. Pour Matthieu, avec la venue de ces mages, ce sont les preuves qui s'accumulent. Sans mauvais jeu de mots, on pourrait dire que les étoiles se sont alignées. Oui, ce Jésus né à Bethléem est bien le Sauveur annoncé. Et aujourd'hui, c'est nous que Matthieu interpelle. Devant cet étalage de preuves, qu'allons-nous faire ? Comment est-ce que l'on va se positionner ? Parce qu'enfin, l'histoire illustre bien trois manières d'accueillir cette nouvelle. Comme Hérode, on peut y être hostile. On peut se sentir menacé par un roi qui aurait la légitimité sur nous. Accueillir Jésus dans notre vie, ça serait renoncer à ce que nous pensons être notre liberté. Mais en même temps, que faisons-nous de cette liberté ? L'ambition, la soif de pouvoir et de reconnaissance, la poursuite de la richesse ou d'une réussite, même au détriment des autres, tout cela ne nous rend pas plus heureux ? Ce n'est pas ça la liberté. Ce sont des esclavages dont justement Jésus veut nous libérer. Une deuxième réaction, après l'hostilité, c'est la méfiance ou même l'indifférence. Elle se voit dans les chefs religieux qui ont répondu à Hérode. Eux avaient la connaissance. Ils avaient toutes les bonnes réponses, c'étaient des religieux fidèles. Mais aucun d'eux n'est allé à Bethléem. On peut avoir des grandes connaissances bibliques, mais sans que cela change rien à notre vie. Ça reste un peu au niveau intellectuel. On peut connaître la Bible sur le bout des doigts et être méfiant envers tout ce qui pourrait être trop mystique, trop surnaturel, trop réel en fait. C'est confortable de rester dans la réflexion et on peut avoir peur de s'exposer à l'expérience réelle et personnelle avec Dieu. Alors oui, ça peut bousculer nos habitudes, déstabiliser nos certitudes parce que ça ne correspond pas à ce qu'on avait imaginé. Mais la Bible montre des humains qui tâtonnent, qui se trompent même souvent, mais qui osent tenter l'expérience de ce que Dieu leur dit. Alors aujourd'hui, troisième réaction, on peut répondre comme les mages. Paradoxalement, ce sont des étrangers qui sont plus proches de la vérité que les spécialistes. Comme eux, on peut chercher avec humilité, sans a priori, prêt à être surpris par un Dieu qui apparaît d'une manière différente de nos prévisions. Alors, on n'a peut-être pas le sentiment d'avoir de grands trésors à lui offrir, comme ces mages, mais pour Dieu, il n'y a pas de plus grand trésor qu'un cœur qui se tourne vers lui. Alors, comme ces mages, prions en nous attendant à des réponses. parlons à Dieu avec l'idée qu'il pourrait bien nous parler en retour. Osons croire, mettre notre foi en lui et remettre nos vies entre ses mains. Mettons-nous à genoux devant le Messie qui nous a révélé la grâce de Dieu et nous ressentirons la même joie que les mages. Je vous souhaite un très bon Noël et une belle nouvelle année d'aventure avec le Seigneur.
Seigneur étoile du matin, inaltérable vérité, Dieu puissant. Pain de vie, source d'infini pour celle et celui que Dieu attire en sa présence, incomparable bienveillance, bien suprême, roi des cieux, auprès du Père, en son saint lieu, jusqu'à la fin des temps. Aide-moi, aide-nous à te vivre à genoux, à saisir la portée de tes voix.
Vaincu le monde.
Aide-moi,
aide-moi.